qu'effectivement, enfin, le modèle de Kubrick est assez. Je pensais à Mission to Mars, en fait, je voulais rebondir. Quel magnifique hommage à Kubrick, les 20 premières minutes. Et après, moi, je suis d'accord avec les critiques. Hein. Le film part complètement. Pour Contact, je suis à peu près à la même genre. On nous promet un magnifique space opera où on va aller voir le fin fond de l'espace. D'accord. Et finalement, on se retrouve quoi ? Dans le dessin d'enfance de Jodie Foster.
Non,
peut y voir une continuité ou une grande tradition du genre. Moi, j'y vois une tradition du genre qui est d'oublier d'écrire des scénarios. Mais on peut en discuter. Oui. Mais sinon, bon, pour en revenir effectivement avec l'adaptation de Dick, la frontière qu'on a, qui est explorée depuis Blade Runner et qui est liée au développement du cyberpunk, c'est effectivement la frontière entre le réel, le virtuel, entre la perception, l'hallucination et donc l'intérieur, l'extérieur. Dans Blade Runner, c'est assez amusant parce que c'est fait presque en sous-main, parce que ça ne figure pas dans la version qui est sortie au départ. Dans la version qui est sortie au cinéma à l'origine, il n'y a absolument pas de fragment du rêve. On est dans un récit noir, simplement, vraiment très très Ridley Scott, mais tous les codes qu'il faut pour qu'on puisse identifier comme un Hardboiled Night dans la grande tradition du noir, avec un inspecteur qui est sur le fil. Mais on n'a pas du tout la séquence de rêve, on a simplement une remise en cause un peu au final de ce en quoi il croit, sans que ça aille très loin. Et quand on a la ressortie du film telle que Ridley Scott voulait le sortir, on a réellement... On a une séquence en plus et une séquence en moins. On a un petit fragment de rêve, rien du tout, on a une licorne, et on a une séquence à la fin où il ne s'échappe pas du tout vers un avenir pastoral et radieux. Soit dit en passant, dans la version originale, cette fin heureuse et radieuse était l'idée qu'un homme allait pouvoir aller vivre son amour dans la campagne avec une femme qui ne vieillirait jamais. Ça fait quand même réfléchir quand on pense à la pienne au début des années 80.
Fantasme.
Beau fantasme. Alors qu'effectivement, dans la version qu'il avait en tête, on a une séquence qui reste complètement énigmatique. Il rêve d'une licorne. Ah bon ? Et on retrouve cette licorne sous forme d'origami à la fin. C'est un pliage qui est posé sur le sol. Et là, on initie quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, autant dans 2001, à la fin, cette grande séquence pose plein de questions, mais qu'on ne peut pas réellement résoudre. On a vraiment une ouverture métaphysique. Ce que fait Blade Runner pour la première fois, c'est d'obliger le spectateur à recomposer entièrement le film à la lumière de ce fragment de rêve qui se retrouve paradoxalement rattaché à la réalité. Et c'est en fait toute l'enquête, parce que c'est quand même évidemment une enquête dans Blade Runner, enfin c'est présenté comme une enquête, pour le spectateur, toute l'enquête revient à comprendre pourquoi une licorne passe d'un rêve à un morceau de papier sur le sol. Et comme on va le voir, et comme souvent dans le cinéma de science-fiction, le traitement de la thématique conditionne un traitement du genre. C'est-à-dire qu'on va jouer en même temps, on va introduire un nouveau type de questionnement, et en même temps on va transformer le genre. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant dans Blade Runner, c'est qu'on a une séquence de fantasy. C'est la seule séquence en couleur vive du film. Parce que d'un coup, c'est effectivement une licorne dans une forêt. Et qui, à la fin, va nous revenir de manière complètement... En tant que symbole, réellement en tant que symbole. Et on a une deuxième enquête en sous-main, c'est un film à double voix. Et justement, la plupart des adaptations de Dick vont jouer entièrement sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'on va avoir à chaque fois un double discours. On va avoir une intrigue principale, très bien, qui est l'histoire qu'on nous raconte, où il y a en général effectivement une enquête ou un mystère à résoudre. Et on va avoir comme ça des signes paradoxaux, au fur et à mesure, qui vont faire du film lui-même, de ses tissus, des différents niveaux qui nous sont présentés, l'objet d'une enquête pour le spectateur, pour faire sens du récit entier. Et voilà.
Merci.
Oui, non, juste très rapidement. On a à la fin le dernier, quasiment le dernier plan là, dans la version finale, hein, de Final Cut. On est quand même ramené au fil rouge de l'enquête. Donc on retombe en fait dans le récit policier.
Juste après, il monte dans l'ascenseur et les portes se referment.
Oui, d'accord, c'est quand même un indice aussi, ça ne fonctionne pas seulement comme...
Ça fonctionne
vraiment à tous les niveaux.
Ah oui, ça fonctionne à tous les niveaux, mais c'est vrai que ça provoque une relecture du film entier.
Absolument.
C'est-à-dire que l'idée pour quelqu'un qui le voit pour la première fois et qui ne comprend pas la licorne, ce qui est à peu près logique, vu qu'en général... Maintenant, évidemment, on est très très habitué, vu que Philip K. Dick est l'auteur de science-fiction le plus adapté au cinéma, ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui détestait Hollywood. Mais maintenant, c'est devenu classique. Par contre, pour les gens qui le voyaient la première fois, c'était quelque chose d'assez étonnant. Et d'ailleurs, si les producteurs ont tenu à rajouter cette fin heureuse et cette dernière séquence, il y avait deux raisons. Il y avait une raison qui était le premier screen test, où en fait, ils ont eu 50% des spectateurs qui étaient contents du film. Donc 50% pour un producteur, c'est rédhibitoire, il faut absolument tout refaire. Et, Et l'autre raison, c'était Harrison Ford lui-même, qui pensait qu'il était inacceptable que le héros du film s'avère être un réplicant, parce que forcément, le spectateur s'identifiant au héros, comment peut-on oser faire s'identifier le spectateur à un assassin ?
Alors, ça pose un certain nombre de questions. Là, finalement, je ne sais pas si on va suivre ce qui était plus ou moins prévu. On vient d'aborder finalement différentes choses. Il est clair que Blade Runner joue à la fois sur des frontières de type corporel, enfin rapport entre l'homme, l'androïde, etc., en déplaçant la question de l'humanité, puisque finalement, les androïdes sont presque plus sensibles, émotionnels que les humains, qui sont presque plus inhumain, mais on joue aussi sur les frontières génériques, puisqu'il est clair que Ridley Scott, en particulier à cause de la voix off, mais pas seulement, et du discours d'enquête, fait clairement un lien avec un hommage, on va dire, au film noir des années 40-50. Hein. Donc on est dans le cadre des deux frontières déjà. Mais tout ce que vous avez dit, il me semble, m'amène à vous poser une question, c'est la question du spectateur, effectivement. C'est-à-dire que le spectateur est remis en cause à certains égards dans son statut, c'est-à-dire qu'on le sollicite à différents niveaux, alors que le cinéma hollywoodien, enfin je caricature un peu, hein, mais a tendance classique, disons, a tendance à accompagner le spectateur dans la découverte des intrigues et à le faire croire aux illusions qu'il nous présente. Justement, la science-fiction est une manière d'interroger aussi le rapport au spectateur et la question du statut de l'image. Donc j'aimerais que vous réagissiez chacun à votre manière sur cette question du spectateur.
Oh oui, juste deux mots. En fait, ça rejoint, ce nouveau fil d'un travail sur la mémoire. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous est demandé, nous, en tant que spectateurs, de faire un effort colossal à partir des années 80 de réflexion sur ce qu'on vient de voir. Et justement, de réflexion sur qu'est-ce qu'on vient de nous montrer, le statut de l'image, le statut de la fiction par rapport à la réalité. Et du coup, c'est aussi un reflet de ce qui se passe dans ce type d'intrigue. Il va y avoir un travail sur la mémoire à tous les niveaux. Peut-être Inception, c'est la fin. Pas la fin, mais en tout cas, là actuellement, c'est peut-être le point extrême de ce travail sur une mémoire à plusieurs étages qui se transmet à toute l'échelle du décor, avec aussi un jeu générique et un rappel, un clin d'œil, un pastiche, par exemple, des films de James Bond. Et en même temps, ça nous demande à nous un effort de plus en plus important. Comment est-ce qu'on ressort de ce type de film ? Avatar aussi nous met dans cette situation difficile. Quelle est notre réponse de spectateur ? On a travaillé aussi sur nos différents réflexes interprétatifs et nos différentes mémoires du récit filmique.
Merci. Tu veux en briller ? Oui, je crois que Gilles a posé la question essentielle, celle du regard du spectateur, qui est posée par d'autres genres, comme le thriller ou le giallo en italien, etc. Mais avec la science-fiction, je pense qu'il y a une spécificité qui est liée au fait qu'on va en avoir pour nos yeux, c'est-à-dire que cette idée de big as in life, c'est quelque chose d'immense, de très grand, etc. Mais moi, ce qui me fascine, c'est de voir que ces films-là mettent en scène énormément de choses d'un point de vue de l'imaginaire, mais aboutissent toujours à un petit point, aboutissent toujours à quelque chose de profondément humain, à quelque chose... Mais ce n'est pas simplement l'histoire d'amour, etc. C'est que c'est ancré au cœur de la fiction. Inception est une grande construction autour, finalement, d'une image fantôme de la femme aimée. Et Inception construit tout ce travail de magnifique d'écriture, mais en même temps de mise en scène, à la fois de blockbuster, il en met plein les yeux, mais ce qui reste, ce qui émeut, ce qui touche, c'est cette image-là de la femme aimée. Avatar aussi a reculé les frontières du visible, ou en tout cas, pas les frontières du visible, ça serait autre chose, la manière de voir. Tout à l'heure, tu disais dans les mers, etc., peut-être qu'il faudrait, je prends une minute pour préciser, James Cameron, 1997, il peut faire ce qu'il veut à Hollywood. Il a fait Titanic, le film le plus vu au monde, le film qui a rapporté le plus d'argent, il peut faire ce qu'il veut. Il disparaît. Que fait-il pendant 10 ans ? Il va sous les eaux. Il va explorer l'épave du Titanic. Ça ne lui suffit pas. Il va explorer l'épave du Miss Mark. Ça ne lui suffit pas. Il va explorer les abysses. et il va trouver et filmer avec son frère, inventer des caméras avec son frère, et il va filmer des formes de vie nouvelles. Et quand vous regardez Aliens of the Deep, il dit, on dirige la planète Mars. Or, on est dans les tréfonds de l'eau. Et tout Avatar, il faut comprendre qu'Avatar vient de ça. Alors, ce qui est génial, c'est de voir qu'un cinéaste se comporte en découvreur, un véritable aventurier, hein, et qu'il a repoussé les frontières du cinéma. On vit aujourd'hui dans le monde post-Avatar. Que vous le vouliez ou pas, dans 2 ans, 3 ans, vous aurez des téléviseurs 3D chez vous. Qui est-ce qui a déplacé ça? C'est Cameron. Et comment il l'a déplacé? En allant sous les eaux. Je résume un peu, mais c'est ça. Et Avatar 2 ne se passera que sous les eaux. C'est son 2014, hein, Avatar 2, sous la mer. Parce qu'il y a quelque chose qui est qu'il est allé chercher dans un espace inexploré une dimension que le cinéma, comment dire, touchait du doigt déjà, mais que lui, il voulait lui donner une autre impulsion. Et il a réussi à donner une impulsion en alliant à la fois l'exploration à l'ancienne et toutes les découvertes technologiques. Et ce qui fait que ça change le regard. Quand vous avez vu Avatar, etc., dans cette salle de cinéma, on était tous encapsulés dans notre regard. Quand maintenant vous regardez la 3D avec les lunettes qui sont souvent épaisses, etc., ça nous isole encore plus en tant que spectateurs. On va créer de nouveaux spectateurs. Avec la 3D, alors la vraie 3D immersive, etc., tout ce qu'on veut, la 3D un peu
voulue dès le départ.
Mais là, il va y avoir un nouveau regard qui se met en place et on va bâtir un nouveau spectateur, c'est évident. Et de ce côté-là, c'est par le biais de la science-fiction que ça se fait et que ça s'est réalisé. La révolution 3D qui avait été tentée dans les années 50 et tout ça. Mais là, elle prend vraiment son ampleur avec un film de science-fiction. Un film qui est peut-être aussi transgénérique au passage.
Parmi les expériences connues, il y a le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock, hein, qui dans certains cas peut encore être visible en 3D. Daniel, je te donne la parole donc, pour commenter à ton tour cette question donc, du spectateur, du rapport au spectateur.
Ben, on a de toute façon une ligne qui va vers l'immersion de toute façon, de plus en plus grande, qu'il soit au niveau technique ou au niveau de la manière d'écrire même les films. On l'a dit avec... J'ai envie de faire une petite synthèse là, parce que dans ce qu'on dit depuis 30 ans, c'est vrai qu'on les a évoqués au début, on a trois lignées sous-jacentes du cinéma de science-fiction là, qui tiennent en fait aux trois films qu'on a évoqués au début, qui sont 2001, Blade Runner, Star Wars et Alien en partie. On a un space opera qui est de plus en plus politique et qui là va reprendre effectivement cette idée de la frontière dans la conscience américaine et qui va la développer de plus en plus. Le meilleur exemple de ça, c'est de voir la manière dont la nouvelle trilogie Star Wars remet vraiment au premier plan le contexte de la politique américaine, toute la difficulté justement de l'identité politique américaine par rapport à la frontière, de maintenir un état démocratique dans ce qui a la taille d'un empire, hein, au sens du 19e. Donc on a cet axe-là du space opera politique. On a les adaptations de Philip K. Dick elles-mêmes qui sont une hybridation noire et qui tiennent au développement du cyberpunk au cinéma et qui vont en général se concentrer sur... Déjà vont avoir une stratégie manipulatoire. On va immerger le spectateur en l'obligeant à recomposer le récit à la fin de pas mal de manières différentes et qui évidemment correspond au développement de nos sociétés. C'est pas spécialement étonnant, mais aujourd'hui une expérience de rupture de niveau de réalité, tout le monde la vit au quotidien, tout le monde a au moins 1, 2, 3, 4 avatars en ligne. Une personne normale physiquement peut avoir 1500 amis, 14 formes dans la journée, peut-être agressé au supermarché par une publicité qui lui explique ce qu'il est, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des publicités fonctionnent par identification. Et on a toujours cette veine et cette tentation qui est la tentation de 2001, qui est la tentation du grand film, la tentation métaphysique, et que la plupart des films qu'on a vont jouer sur ces trois composantes, en les adaptant, et en s'adaptant évidemment au contexte, et évidemment au développement technique. Hein, vu qu'il y a quand même une fascination pour la technique qui est aussi porteuse du cinéma de science-fiction.
Tout à fait. Oui, alors justement, tu viens d'évoquer un mot qui est le mot politique. Et effectivement, il me semble que la science-fiction a toujours été associée avec une sorte de discours politique ou une dénonciation politique par le biais notamment de ce qu'on pourrait appeler la contre-utopie ou les univers dystopiques, c'est-à-dire les univers totalitaire, concentrationnaire, etc. Ça va très très loin, le cinéma des années 50 en est plein, mais il me semble que là on a touché une nouvelle frontière avec ce type de film, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de manipuler les gens. Alors la publicité effectivement est un exemple. On pourrait reprendre le film de Carpenter, des Lives, hein, qui les messages subliminaux dans des Lives. Invasion Los Angeles. Mais je pense qu'on va encore plus loin avec quelque chose qui est vraiment un motif absolument récurrent dans le cinéma des années 80, 90, 2000, etc., et qu'on retrouve dans Inception, bien sûr, systématisé. C'est la question de la transgression de l'intimité de l'humain, non pas de son corps seulement, mais aussi de son cerveau, de son esprit, et donc l'idée d'implantation, évidemment, hein, implantation de mémoire, de fausse mémoire, ou implantation de rêves, etc. Donc je crois que cette question-là est absolument cruciale, et après on peut se demander, alors ça peut jouer à différentes, ça peut jouer à des fins de dénonciation en quelque sorte, hein, comment on manipule l'humain pour lui faire croire que quelque chose existe alors que ça n'existe pas, etc. Donc c'est une manière de dénoncer un certain nombre de manipulations politiques, on va dire, pour le spectateur, évidemment. Mais ça peut jouer aussi en termes d'immersion, effectivement, comme on le disait avant, c'est que le spectateur est plongé dans une intrigue à multiples facettes dont il n'arrive pas à sortir. Ouais. Voilà, donc je voudrais revenir sur cette articulation donc, de la manipulation de l'humain sous une forme de faire forme et la question du politique. Alors je pense à Robocop aussi, ouais, à notre niveau.
Ouais. Juste un mot rapide. Peut-être que l'un des premiers films à lier toutes ces trajectoires, là, aussi bien sur le plan générique que sur le plan du simple thème, c'est la fin des années 90, le film de Catherine Bigelow, Journées étranges, ou Jours étranges en français, Strange Days, où on a ce type de manipulation justement de la mémoire chez les individus avec un appareillage qui reproduit la façon dont les synapses fonctionnent dans le cerveau et qui nous permet de vivre l'expérience d'un autre sujet. Et aussi, bien sûr, la dénonciation politique. C'est aussi un film à dimension politique. Donc, frontières génériques, hybridité générique, et peut-être pour la première fois, justement, ce type de manipulation qui fait intervenir un autre type de technicité, en fait. Là, on rentre dans tout ce qui deviendra après les manipulations, justement, de jeux vidéo avec Cronenberg encore, Existence, etc. Voilà. 99, oui.
Avant, on a Total Recall, qui est un film extrêmement malin. J'adore Total Recall. C'est un film extrêmement malin parce que c'est un film qui reprend exactement le même principe. Enfin, comme je dis souvent, Brésil, à la fin de Brésil, on voit en fait qu'il est devenu psychotique. On a ce dernier plan absolument phénoménal où on se rend compte que toute la happy end qu'on a eue pendant 20 minutes était en fait un leurre et que le personnage est simplement devenu fou parce que ses rêves ne pouvaient pas se mélanger dans la réalité. Et donc, il a décidé, heureux homme, de se réfugier dans une psychose heureuse. Et c'est exactement ce qui se passe à la fin de Total Recall, à part qu'il ne le dit pas. Parce qu'il aurait été insupportable pour Carol Coe. Déjà, pour le producteur, il était impossible que Carol Coe finance un film dans lequel Schwarzenegger était victime d'une embolie schizophrénique. Et quand on parlait tout à l'heure d'Inception, qui reprend et qui joue avec toute l'imagerie des films de James Bond, c'est exactement ce qu'on a déjà dans Total Recall, avec un personnage qui est un ouvrier de chantier, marié à Sharon Stone, ce qui est quand même, disons-le, un destin plutôt agréable, surtout à cette époque, et qui finit... Non, je ne suis pas méchant, je ne suis pas un grand fan de chirurgie plastique, c'est tout. Mais là, effectivement, on a clairement mis en abîme quelqu'un qui est un spectateur, mais avec une technologie un peu plus développée, qui décide de se prendre pour un agent secret, victime d'une conspiration interplanétaire, et à qui un médecin explique, noir sur blanc, que tout ce qu'il a vu avant, ben, il l'a vu avant, que son aventure est exactement ce qu'il a commandé à Recall. Exactement de la même manière que le spectateur venu voir le dernier film de Schwarzenegger a eu exactement tout ce qu'il voulait. Il a eu un héros ultra musclé qui tue plus d'une cinquantaine de personnes de manière très gore et qui finalement a une fin complètement irréaliste. Et ce qui est intéressant avec cette fin irréaliste, c'est que ça correspond à ce qu'on dit sur la transition des techniques. C'est-à-dire que c'est un film, c'est le dernier grand film, la dernière grosse production de science-fiction avant l'avènement du paradigme numérique. Il y a un plan au début du film où on le voit justement, on reparle des frontières, de la transparence du corps, où on le voit passer avec son squelette, hein, une des premières grandes séquences entièrement numériques, hein, du cinéma de SF. On voit passer son squelette avec son arme qui apparaît, suivi d'une scène comme l'ensemble du film, hein, qui est une scène hyperbolique, enfin, c'est une machine à tuer absolument incroyable. Et la fin du film, elle, il a commandé, mais c'est dit juste en fond, comme ça, on l'entend à peine, ciel bleu sur Mars, il ne va jamais vouloir revenir. Ça, c'est ce qu'il dit dans la salle, juste avant qu'on l'implante. Et à la fin du film, on a une scène qui est totalement irréaliste, une des dernières grandes scènes de maquette, avec une maquette de Mars qui se recouvre de fumée. Les mêmes effets spéciaux qu'avait utilisés pour le clip de Michael Jackson pour Thriller, c'est-à-dire avec des effets de poche, hein, vraiment très très physiques, avec les yeux exorbités, etc. En l'espace de 2 minutes, il passe de « je suis prêt à exploser » à « je vais très bien, je viens de sauver le monde ». Et le film se finit sur un des plans techniquement les plus mauvais qu'a jamais fait Verhoeven, où on voit manifestement que les deux personnages se détachent tout plat d'un décor qui est complètement faux, et avec cette parodie totale du film d'action, avec cette dernière phrase « mais si tout cela n'était qu'un rêve, alors embrasse-moi vite avant de te réveiller », et qui est une parodie totale. Mais Verhoeven étant quelqu'un de très intelligent, il ne donne effectivement pas les clés pour que le producteur comprenne qu'il a bien fait faire une embolie schizophrénique à Schwarzenegger, et qui, par retour, n'est pas très flatteur pour le spectateur, qui ressort du film en se disant « ah, il a sauvé le monde ».
Juste une chose, je te confirme, puisque j'ai publié un livre d'entretien avec Paul Verhoeven cette année, et je te confirme que Paul Verhoeven nous a confié que la toute fin de Total Recall, c'était pas pour lui son plus mauvais plan, c'est qu'il l'a fait exprès. Voilà. Et qu'il l'a fait exprès parce qu'il voulait précisément montrer que tout cela était faux. Hein? Donc, au passage, Paul Verhoeven étant peut-être le cinéaste vivant le plus talentueux qui soit, et qui a fait aussi Starship Troopers, qui est là aussi, on parlait de film politique, ouais. Film qui a été honni par l'Amérique. Dans le livre d'entretien, il raconte comment il est encore mal vu aux États-Unis et perçu comme un néo-nazi. Film qui a été descendu en flèche en France par les Cahiers du cinéma qui l'ont traité de nazi, alors que c'était précisément l'inverse qu'il faisait, parce qu'il utilisait des codes cinématographiques que certaines personnes n'ont pas compris. Par exemple, il dit dans l'entretien qu'il a fait exprès de choisir des jeunes qu'il avait pris dans des séries télévisées, etc., qui sont tous beaux, parce qu'il voulait précisément les amener à être complètement défigurés à la fin. Et c'est passionnant de montrer les photogrammes du début du film avec ces personnages très beaux, et de montrer ce qu'ils sont devenus à la fin, l'un qui est lézardé, l'autre qui est décapité, etc. Donc il y a une réflexivité des cinéastes dans la science-fiction qui est quand même très intense, qui est à la fois une réflexivité politique, mais qui est aussi une réflexivité, et ça, moi j'irai vers un Christopher Nolan, un James Cameron, un Robert Zemeckis, etc., c'est-à-dire comment m'emparer de la technique pour servir la sensorialité. Et tu parlais du cinéma de l'immersion, je crois que c'est le gros enjeu, il est là. Qu'on aime ou pas Avatar, moi je peux comprendre qu'on n'aime pas Avatar, mais on ne peut pas ne pas accepter l'idée qu'on est dans un cinéma immersif. Après, on peut résister à l'immersion, ça c'est autre chose. Mais on a vraiment des cinéastes qui veulent naturaliser d'une certaine façon la technique, en faire une sorte de prolongement de nos sens. Et Zemeckis est très fort, par exemple, pour toutes ces transitions numériques invisibles. C'est incroyable ce que fait Zemeckis, mais vous ne vous en apercevez pas. Donc voilà.
Ce qui n'est pas forcément le cas d'Avatar, d'ailleurs. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont sortis aussi des salles pendant Avatar. Donc c'est certes immersif, mais il peut y avoir une résistance immédiate aussi.
Ah, mais il y aura quelques pourcentages de spectateurs qui ne peuvent pas voir en 3D, déjà. Non, mais c'est un problème de... Ouais. Vous savez que la 3D, on vous force à corriger l'image qui est à l'écran. Hein, avec, voilà. Donc il y a déjà un pourcentage de personnes qui ne peuvent pas voir en 3D. Alors après, ça va s'améliorer, hein, la technique.
Oui, alors tu as beaucoup parlé de Verhoeven à juste titre. Je pense qu'on n'a pas évoqué deux grands moments aussi. Alors toujours en ce qui concerne la question du corps et du rapport entre le corps et la machine, par exemple, c'est évidemment Robocop, enfin la série des Robocop, et aussi Terminator. Et avec deux approches un peu différentes, c'est-à-dire que dans le premier Robocop, au moins, le policier donc, qui est transformé en machine au service d'un ordre totalitaire est présenté comme une victime, alors que dans Terminator, c'est l'inverse. Hein, c'est une sorte de monstre mécanique. Hein, voilà. Et Terminator 2, par contre, fait une synthèse, en fait, entre les deux. Et donc, il me semble que ces films-là sont aussi des films totalement matriciels, en quelque sorte, par rapport à tout ce qui suit ensuite. Voilà, enfin, c'est... Donc, je ne sais pas si que vous, par rapport à cette question du corps-machine, et la manière dont on joue là encore justement à la fois sur une sorte de distance réflexive en particulier créée par les effets spéciaux, mais en même temps on cherche à toucher le spectateur en jouant sur ce qu'on peut appeler des phénomènes d'identification assez classiques finalement où on vit avec le héros dans Robocop par exemple comme si nous étions à sa place en quelque sorte. Il y a une dimension extrêmement subjective de ces films là. Donc on essaie de jouer sur différents tableaux en fait. Hein. C'est peut-être aussi un peu le problème qui a été posé à propos de film Verhoeven, c'est qu'il a proposé trop de niveaux de lecture et que peut-être certains se sont limités à un premier niveau qui effectivement impliquait une sorte de, on va dire, discours plus ou moins fascisant, ce qui évidemment n'est pas le cas de Verhoeven si on connaît un peu sa filmographie. Alors, je ne sais pas si...
On est dans le... Qu'est-ce que j'allais dire ? On est dans cette ligne cyberpunk de toute façon, avec la figure du cyborg.
Je voulais que tu parles du cinéma asiatique, par exemple, aussi.
Le cinéma asiatique, en tout cas la science-fiction japonaise, avant tout, je veux dire, est cyberpunk dans pratiquement son intégralité. C'est là que le cyberpunk se développe le plus. Avec là encore, dans le cyberpunk, on va avoir deux axes principaux qui sont liés aux deux motifs principaux du cyberpunk, qui sont le cyborg et la matrice. Donc d'un côté, on va transgresser les frontières du corps, de l'autre côté, on va connecter directement l'esprit sur un monde numérique. Et on va s'amuser à mélanger les deux de plus en plus. Et comme on est dans cette période, justement, des années 80, où on a le développement de la vidéo personnelle, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce... Dans le développement des sociétés médiatiques, il y a la phrase de Warhol qui était là, on va tous avoir notre quart d'heure de célébrité, tout le monde va devenir producteur, etc. C'est un rêve des années 80 qui va devenir vrai 15 ans plus tard, qui va réellement devenir vrai avec le numérique. Parce qu'effectivement, les années 80, les caméras marchaient moins bien, elles étaient lourdes, elles étaient chères. Aujourd'hui, tout le monde le fait, et avec les années 2000, c'est là qu'on est vraiment rentré dans ce monde-là, vu que tout le monde les a dans la poche. Et il n'est pas étonnant, du coup, que... les films jouant sur ces thèmes-là commencent à se développer dans les années 80, se multiplient dans les années 90 et deviennent la norme dans les années 2000. Parce que maintenant, finalement, on a beaucoup plus de films qui sont des films cyberpunk, des films manipulatoires, que de films qui partent dans le space opera. Récemment, on a les chroniques de Riddick, qui essayent de faire du space opera. Derrière, on a Avatar. La plupart des autres space operas ne sont pas des grosses productions. Bon, déjà, il faut être honnête, ça coûte cher. Ça coûte très cher, hein, space opera. Ça coûte très, très, très cher. Mais c'est vrai que maintenant, on a moins. Ce qui est intéressant dans les chroniques de Riddick, c'est qu'on récupère tout. C'est que c'est en même temps un remake de Conan. Mais vraiment, avec un vrai bonheur, on a cette idée politique. On a le retour, la transcription très, très détournée du retour en force dans la période millénariste de la religion en politique, de manière assez, assez énorme. Comme les Borg dans Star Trek, hein, on a vraiment une vision noire des États-Unis en train de se transformer en empire. Là encore. Avec cette idée du héros, on est toujours dans le noir, hein. Ce héros est un assassin, d'ailleurs le début le dit très clair, hein. Parfois pour combattre le mal, il faut quelque chose d'encore plus mauvais. Et finalement on revient avec Avatar, où là encore, parce que la science-fiction fait évidemment des boucles, en les réadaptant à chaque fois aux transformations, on va dire au contexte politique et aux nouvelles possibilités techniques, puisque Avatar, c'est un retour très très clair sur la conception de la politique américaine par rapport à sa frontière, par rapport à son empire. On a un retour, vraiment une relecture, parce que, bon, comme je le résumais souvent, Avatar, c'est danse avec les loups sous l'eau, mais dans l'espace. Et on est vraiment dans cette idée-là. Je veux dire, moi, le premier mérite que je trouve à Avatar, et qu'on aime le film ou pas, s'il y a un mérite qui est à Avatar, bon, c'est personnel, mais c'est qu'un enfant américain qui n'a connu que George Bush dans sa vie ressort d'Avatar en se disant qu'il y a trois choses qu'on ne peut pas faire au monde. Un, faire confiance à des militaires. Deux, piller les ressources naturelles d'un autre monde. Et trois, de toute façon, conquérir une autre planète. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu, mais j'ai déjà parlé assez longtemps.
Je voulais juste enchaîner sur le rapport à l'Asie, parce que peut-être que l'une des mutations de la science-fiction... On a beaucoup parlé de science-fiction occidentale, on parle du cyberpunk. Le cyberpunk, par exemple, un des noms très importants, c'est Shinya Tsukamoto et les têtes du haut, 1, 2 et le 3. Mais c'est aussi Ghost in the Shell. C'est aussi tout le film d'animation. Ça veut dire, je vais un peu plus loin, le jeu vidéo. Je pense que la mutation du cinéma actuel, de la science-fiction, ne peut pas être envisagée. Et Cameron le dit lui-même. Ce qui l'a intéressé aussi, c'est de pouvoir manipuler... Je ne sais pas si vous savez comment Cameron a tourné Avatar. Il a loué l'un des plus grands hangars de Los Angeles, qui était le hangar de Howard Hughes, là où il a construit certains de ses avions. Il a tourné dans un plateau avec une caméra révolutionnaire qui s'appelle le Simulcam. Et le Simulcam, ça se présente comme un joystick. Et il pouvait manipuler. Si vous voulez, imaginez Avatar, certaines scènes, c'est cette salle vide, avec des capteurs par terre, des boudins en liège, et vous aviez Cameron qui avait un simulcam, comme un énorme carré de joystick, qui était relié à 46 ordinateurs, et il avait ses acteurs avec des capteurs sur la tête de partout, etc. Il avait déjà prénumérisé tous les décors, et lui pouvait faire tous les mouvements de caméra qu'il voulait. Et même, pour vous dire plus loin, parfois il revenait tout seul sur le plateau de tournage. Ça, vous pouvez le voir sur des vidéos YouTube, ça. Il revenait tout seul sur le plateau de tournage sans ses acteurs, parce que tout était préenregistré. Et s'il voulait changer d'angle de vue, il pouvait faire une contre-plongée plutôt qu'une plongée, etc. Avec sa simulcam. Donc c'est comme ça qu'il a tourné Avatar. Et je pense qu'on ne peut pas réfléchir actuellement dans les mutations du cinéma sans connecter le monde du virtuel, le monde du jeu vidéo, le monde de l'animation et le cinéma.
Oui, c'est vrai que la question de départ était sur l'Asie. Il y a quand même deux, trois choses qu'il faut absolument évoquer à ce niveau-là. On a Lang, évidemment, Ergo Proxy, toute l'œuvre de Satoshi Kon, Paranoia Agent, Millennium Actress, Paprika, qui sont... Et là, vous retrouvez absolument tout. C'est-à-dire en même temps, le jeu sur la schizophrénie du personnage principal, c'est-à-dire qu'il ne fait effectivement plus la différence, et la schizophrénie telle que définie par R.D. Langhout, c'est une rupture entre l'être, le corps et le monde. Et ce que va énormément faire la science-fiction, à chaque fois qu'on a des personnages comme ça de schizophrènes qui ne font plus la différence entre fiction et réalité, c'est de reprendre cette rupture, mais d'y rajouter les médias. Et on a l'être, on a les médias qui vont se tenir entre ce que je suis, mon rapport à mon corps et mon rapport à la réalité extérieure. Et effectivement, les Japonais le font de manière énorme, avec en plus chez les Japonais, ce qu'on récupère avec Avatar, mais qu'on avait un peu perdu depuis Silent Running en Europe, c'est tout le message écologique et le message de la fin du monde, qui ça est évident pour les Japonais, vu qu'eux ont connu une fin du monde locale, et que c'est un pays qui est pris entre... des tremblements de terre et entre des montagnes et la mer, et qui est un pays qui de toute façon est... toujours comme la Californie, qui est toujours au bord du gouffre. C'est un pays qui est toujours sur le point de s'éteindre.
Merci. Juste pour dire, Silent Running, c'est un de ces films qui ont été inspirés par 2001. Et c'est effectivement un des premiers films de science-fiction écologique et réalisé par un grand concepteur d'effets spéciaux, en particulier pour Hitchcock, Douglas Trumbull. Donc je vous conseille ce film éventuellement. Voilà, c'était juste pour donner une information. Anne-Marie, donc tu veux peut-être rebondir par rapport à ces questions?
Non, je trouve très troublante, moi, cette mutation là dans le statut du spectateur. Ce qu'on va nous demander de plus en plus à nous, spectateurs. Et j'ai un collègue américain qui disait à ses étudiants de cinéma la façon dont je vous enseigne maintenant le cinéma va changer dans les 2 ou 3 années qui viennent et votre expérience ne sera plus jamais la même et je ne ferai peut-être plus jamais cours devant un public rassemblé. Et c'était fascinant parce que on revient à ce que tu disais, Guy, sur le jeu vidéo et les nouvelles techniques qui sont complètement à la fois intégrées et détournées avec ce type de cinéma dont Avatar et Inception seraient les derniers exemples actuels. Donc se projeter dans ce futur-là, changement du statut donc du spectateur, changement dans le statut du héros, là peut-être c'est plus ancien, on revient à, par exemple à Tom Cruise dans Minority Report. Mais c'est vraiment des mutations qui sont absolument fascinantes. On est en train de vivre un moment où complètement qui sera justement le moment alien zéro peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant.
Merci.
Non, juste, Daniel a cité quelqu'un, je reviens là-dessus, on a perdu peut-être l'un des plus grands artistes cette année, qui est Satoshi Kon, qui est mort très jeune. Il faut absolument voir Paprika, par exemple si vous avez aimé Inception, si vous voyez Paprika, vous allez être surpris de voir la ressemblance avec Inception, et Millennium Actress est un film extraordinaire. Donc voilà, et je pense qu'on a une vision très occidentale de cette approche-là de la science-fiction. Je pense qu'elle est là, pour le coup, quand on parle des frontières, elle est beaucoup plus mêlée aussi, parce qu'on est dans une forme de mondialisation aussi concernant les arts et le cinéma. Donc il y a des choses qui circulent énormément. Matrix n'aurait pas pu être réalisé comme il a été réalisé sans que les frères Wachowski regardent du côté des Asiatiques. Et d'ailleurs, Animatrix nous montre très bien qu'il y a un lien étroit. Et il a pris comme chorégraphe un des plus grands chorégraphes, Wu Yuping, c'est ça, de Asiatique. Donc je pense qu'on est rentré aussi dans cet âge-là du cinéma.
Non, il nous reste une dizaine de minutes, donc on va vous donner la parole si vous avez des questions. On a encore des échanges entre nous, mais je veux dire, on voudrait vous donner la parole. Donc si vous avez des questions à poser à l'un ou l'autre des invités, merci de le faire. On fera circuler un micro qui est là. Daniel, tu peux le faire si c'est... Voilà, donc s'il y a des questions.
Oui, il y a un monsieur là.
Oui.
Je crois qu'il va revenir sur Blade Runner. Il avait réagi à Blade Runner.
Merci. Juste pour revenir par rapport à Blade Runner, vous parliez de deux licornes dans le film. Vous en trouverez une troisième également dans le bureau de Jeff Sebastian, le concepteur d'automates. Il y a aussi une licorne à ce niveau-là, et donc ça ajoute à l'ambiguïté du personnage. Voilà, c'est juste ça.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Devant, au premier rang.
Merci. En fait, je voulais revenir à la question de l'espace. On a vu que Cameron était passé du monde du silence à son Aliens en pleine mer, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air très intéressant. Est-ce que depuis les films des années 50, depuis 2001, depuis Star Wars, depuis Space Cowboys, qui est un peu ma dernière grande image de la représentation de l'espace dans des films, quelle peut être la nouvelle frontière dans un sentiment de cesse grandeur de la découverte spatiale?
Ah, au niveau de la découverte spatiale,
enfin, en tout cas de la représentation dans un film, dans une fiction, de ce sentiment de l'espace.
Mm-hmm. Oui. Alors, bon, moi, je pourrais juste dire un mot de Dark City, je pense que c'est un exemple de ça, c'est-à-dire qu'on a un univers qui se construit à la fois dans l'espace, dans le cosmos en quelque sorte, et en profondeur sur la Terre. On croit au début en tout cas qu'il s'agit de la Terre, c'est un univers de simulacre, donc je pense que dans la profondeur terrestre, avec là aussi des hybridités génériques très fortes avec le film noir, mais aussi le cinéma expressionniste allemand des années 20, avec un hommage évident à Murnau, et le motif du vampire. Donc ça c'est une première chose, mais on a aussi cette idée donc d'univers qui est en fait un vrai simulacre. On trouve cette idée de non pas du mur, hein, du mur qui est un faux mur, qui est un mur qui se brise très facilement, qui est en fait simplement une surface de papier ou de carton. Donc l'idée d'enfoncer un mur d'illusion en quelque sorte. Donc ça c'est un premier exemple, mais je pense qu'Inception est un film qui joue énormément sur la dimension spatiale. Peut-être que Guy peut en dire quelques mots.
Non, mais je crois que la dame voulait dire des films qui vont dans l'espace proprement.
Ah, dans l'espace, ben justement.
Et c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. Alors il y a un cas particulier, mais alors... parce que qui donne cette sensation de l'espace et de l'infini, du vide. Alors c'est un film donc qu'on n'a pas évoqué, qui est peut-être un peu entre les coins, dans les coins, et que vous ne connaissez pas, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Event Horizon.
Oui, oui, on va en parler tout à l'heure, je crois, parce que c'est un hybride western sans
science. Voilà, mais ce qui est intéressant dans Event Horizon, c'est qu'on est dans un film qui lorne du côté de Clive Barker, etc., avec des moments très gore. Mais en même temps, jamais un film ne m'avait donné ce sentiment de toucher à une forme d'infini, notamment au rapport au trou noir, au rapport précisément à partir du centre du vaisseau lui-même. Mais c'est vrai qu'en termes d'expérience proprement spatiale récente, moi je pense à des plus vieux, Saturne 3,
ouais,
des choses comme ça.
Mais pas récent.
Mais récent, alors peut-être que dans le public, d'un coup il va y avoir des titres qui vont surgir et on va dire ah oui, mais.
Les derniers, moi, grands que j'ai vus, c'était dans Mission to Mars. C'est
la
séquence d'arrivée sur Mars où, effectivement, on a les. Ils sont en combinaison spatiale. il y a deux, trois plans qui sont juste extraordinaires. Moi, c'est une des premières fois où j'ai vraiment eu une espèce tout de sensation fait. D'agoraphobie, de peur du vide et de l'espace avec cet écrasement qui marchait très bien, d'où ma déception après. Mais quelle séquence cette séquence-là, pour moi, dans les derniers temps, j'ai trouvé c'est la seule qui me vient en tête, réellement. Et je pourrais parler de Cargo éventuellement, mais il passe et je ne voudrais pas le déflorer. Donc, il est hors de question que j'en parle.
Bon, je crois qu'il y a une question là.
Oui, je voudrais simplement revenir sur une notion que vous avez soulevée tout à l'heure. C'était la frontière métaphysique. Et les films que vous avez cités sont 2001, Blade Runner, notamment, et Contact, qui sont des films métaphysiques et qui abordent justement un domaine très complexe à exprimer au cinéma. Ils le font merveilleusement. La fameuse dalle noire qui marque des changements d'air, des changements... C'est la table d'émeraude, c'est la table des chevaliers de la table ronde, ça marque des cycles qui vont se succéder. Maintenant, Blade Runner, pour une raison très... Enfin, je ne vais pas rentrer dans Blade Runner, qui est un merveilleux film métaphysique également, mais Contact est très, très intéressant, et je vous conseille de revenir au livre, parce que, malheureusement, par rapport aux deux autres films, le livre a été un petit peu, disons, fondu dans une intrigue sentimentale qui n'a pas grand-chose à voir. Enfin, bon, à mon avis, ça fait vendre le film, mais ça noie l'aspect métaphysique. Dans ce film métaphysique, on parle très peu, mais alors qu'on en parle beaucoup dans le roman, de la précession des équinoxes et de l'histoire cyclique. Aborder l'histoire cyclique, c'est très complexe, ça peut être très dangereux. Ça s'est fait avec une grande subtilité dans Contact. Et il y a une machine métaphysique que j'ai trouvée extraordinaire, c'est la représentation physique de cette espèce de mécanique cyclique, cette machine cyclique, qui est une sorte de boule blanche. Oui. Et pour terminer, je vais citer un auteur qui est décédé récemment, qui s'appelait Jean-Charles Pichon, qui habitait près de Nantes pendant longtemps. Et Pichon a écrit un roman que vous trouverez qui s'appelle « L'objet volant identifié ». Dans « L'objet volant identifié », vous retrouverez cette machine de contact. Et vous ne saurez pas si c'est une machine métaphorique ou si c'est une machine réelle. Et c'est ça toute l'ambiguïté des grands romans et des grands films. Merci.
Merci à vous, oui.
Je pense que s'il y a une toute dernière question, et sinon on va être obligé de conclure, je crois qu'il est 4 heures si je ne m'abuse.
2 minutes.
Encore 2 minutes, bon alors 2 minutes. Donc peut-être un dernier mot de conclusion, chacun d'entre vous.
Non, pour rebondir ce qu'a dit monsieur, parce qu'il a eu raison de souligner la force du texte de Sagan, c'est vrai que Contact, moi ce que j'aime beaucoup dans Contact, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est aussi cette façon de nous faire sentir le paradoxe temporel. Parce que Jodie Foster, on a l'impression qu'elle vit une aventure de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et quand elle revient à la réalité, il s'est passé un temps très court, je ne sais plus lequel, mais c'est extrêmement court. Et il y a aussi, dans Inception, ce travail qui pour moi m'a sidéré, moi qui suis professeur de cinéma, qui fait du montage avec les élèves, etc., une des forces d'Inception, c'est son montage. Et nous faire sentir qu'il peut coexister la chute d'une voiture qui dure que quelques secondes avec les limbes qui peuvent durer des années, moi personnellement, on ne m'avait jamais fait ça au cinéma de cette façon-là. Et cette façon qu'a le cinéma de pouvoir monter quelque chose dans la succession, forcément c'est successif, mais de nous faire sentir la simultanéité à ce point-là, ça ressort, enfin, ça a à voir avec du magicien. Et quand on sait que Christopher Nolan a fait peut-être l'un des plus beaux films de magicien qui soit avec Le Prestige, il y a aussi cet aspect-là qui est de l'ordre que la science-fiction nous ouvre aussi à quelque chose de magique.
Et en même temps, comme recherche formelle, le procédé de base par lequel il fait ça, c'est un truc hyper classique au cinéma, bien finalement, hein, du son off, du son in et de l'enchaînement auquel en général on fait pas gaffe. C'est que dans un film, n'importe quel spectateur, quand on a de la musique d'une séquence, de la séquence d'après qui commence pendant la séquence d'avant, c'est une solution de continuité pour le spectateur à laquelle on prête absolument pas attention et qui est extrêmement classique. Et justement, Nolan réussit à la reproblématiser et en faire quelque chose, jusqu'évidemment à la fin du générique pour ceux qui sont restés, où là vous avez Edith Piaf qui s'adresse à vous, juste après cette coupure, parce que le temps qu'il prend à la fin du film est assez génial, parce que justement, il coupe avant qu'on sache si ça va tomber ou pas,
Et il nous réveille juste avant qu'on sorte de la salle avec un peu d'Edith Piaf. Et évidemment, pour un spectateur récent, et ça, ça fait un peu bizarre, mais on a Marion Cotillard avec du Edith Piaf. Et ça résonne aussi à ce niveau-là.
Merci. Anne-Marie, un
mot. Non, juste, c'est bien au-delà du montage, des premiers montages parallèles. C'est bien au-delà du fondu enchaîné sonore. C'est multi-niveau et c'est extraordinaire.
Voilà, donc on vient de parler de magie. Je crois qu'il y a toujours la magie du cinéma et c'est comme ça depuis Méliès. Et on sait que Lumière aussi, c'était une autre forme de magie. Voilà, donc je terminerai par cet hommage au premier temps du cinéma.